Je voudrais remercier le CIEP pour une petite chose que nous avons faite ensemble. L'Académie des sciences a développé, il y a déjà une dizaine d'années, le livret de l'environnement, hein, qui est fait de certain nombre de fiches qui traitent des problèmes comme le développement durable, comme le climat, comme ceci, cela. Et ce document, qui est assez important, a été mis en ligne par le CIEP. Et je voulais vous en remercier. Bien, alors je passe la parole à l'orateur suivant. Pardon, l'oratrice suivante, Madame Virginie Blytrack, voilà, tu mets en route, qui est responsable de la division éducation-formation à l'AFD.
Merci, merci encore à l'Académie des sciences pour l'opportunité qui nous a été donnée de co-organiser cette magnifique journée. L'action, j'aimerais structurer mon propos autour de trois points. D'abord, peut-être repositionner les actions de l'AFD en matière d'éducation, développement durable et changement climatique. En souligner les limites pour dresser ensuite les pistes peut-être que l'on pourrait explorer ensemble pour améliorer l'impact de l'équipe France. Si j'ai pas le temps sur le troisième point, peut-être qu'on le gardera pour le débat, je triche un petit peu. Donc l'action de l'AFD, elle s'inscrit bien sûr au cœur des enjeux de développement durable dans un agenda international, ça a été rappelé à l'instant, qui a été profondément renouvelé en 2015 et qui est très fortement mobilisateur. En tant qu'agence de développement en charge de la coopération bilatérale en éducation depuis une quinzaine d'années, nous déclinons la stratégie française de coopération à l'international et les priorités diplomatiques de la France dans une double logique de développement et d'influence. Et en ce sens, l'AFD inscrit son action vraiment au sein d'une équipe France dont on a beaucoup parlé ce matin et dont on a beaucoup de représentants ici autour de la table. Une équipe France qui cherche à unir ses forces, à valoriser la richesse et la variété de ses acteurs, et c'est bien l'objectif du séminaire aujourd'hui. Comme on est aussi une banque de développement, juste un chiffre, vous dire qu'entre 2013 et 2015, nous avons engagé en termes de financement un peu plus d'un milliard d'euros d'appui à des projets dans les secteurs éducation, formation, emploi, dont plus de la moitié sur l'enseignement fondamental et les trois quarts à peu près en Afrique. Donc on est bien au cœur des priorités qui nous occupent aujourd'hui. L'action de l'AFD, elle est d'abord fondée sur un certain nombre de convictions. On les a rappelées ce matin, mais j'aimerais insister là-dessus. C'est d'abord de dire que l'éducation et la formation ne peuvent pas relever tous les défis du développement durable et du changement climatique, mais que l'accès équitable à une éducation, une formation de qualité a des impacts directs sur le développement durable et le changement climatique. Dans le domaine environnemental, la transition vers des modèles qui soient plus sobres en énergie, en ressources naturelles, la préservation de la biodiversité, la prévention des catastrophes naturelles, tout cela implique un changement en profondeur des mentalités, on l'a dit ce matin, des comportements, des attitudes de consommation, de production, et en ce sens, l'éducation a un rôle fondamental à jouer pour sensibiliser, on l'a dit aussi, et pour accélérer la prise en compte de ces enjeux environnementaux, promouvoir l'adaptation des mentalités, des attitudes qui sont nécessaires à l'adaptation au changement climatique et à l'atténuation de ces effets. Donc seuls, effectivement, les infrastructures et les techniques ne pourront pas résoudre les problématiques du changement climatique. Nous sommes convaincus donc qu'investir dans l'éducation, la formation et l'emploi, c'est soutenir vraiment de puissants agents, de puissants outils de transformation, d'adaptation. Oui.
Nous avons eu ce matin un petit débat là-dessus et il était clair que le ministère de l'Éducation nationale nous a dit la formation, l'éducation et la transformation de la société civile après le lycée ne nous concerne pas, puisqu'on a une mission qui est l'école et au-delà, c'est d'autres ministères, d'autres agences, d'autres organisations, les ONG, qui vont prendre ça en main. Vous me dites le contraire. Vous me dites que vous allez jusqu'à la formation de la...
Oui.
D'accord, très bien, je vous félicite. Oui, oui, et je vous rends la parole.
Je pense qu'effectivement, l'école seule ne peut pas tout. Donc, fort de ses convictions, l'AFD a développé une stratégie dans les secteurs éducation, formation autour de quelques priorités. Il s'agit d'abord de déployer les opportunités d'accès à une éducation, à l'enseignement fondamental, en améliorant la qualité des enseignements et des apprentissages, et selon des modalités qui sont vraiment alignées sur les politiques nationales, les politiques sectorielles et la demande des pays, et ancrées dans un pilotage des établissements avec les communautés et l'ensemble des parties prenantes. prenantes. Donc c'est en partie réponse à votre question. Et cette stratégie, elle s'appuie aussi sur trois dimensions transversales. La première, c'est le développement de cadres de gouvernance qui soient participatifs, inclusifs et efficaces pour renforcer la légitimité de l'action publique et mobiliser autour d'elle l'ensemble des parties prenantes. Donc encore une fois, c'est une multitude d'acteurs qu'il faut mobiliser. La deuxième, c'est la réduction des vulnérabilités. Et la troisième dimension transversale, c'est l'accompagnement des transitions. Alors, pour rendre tout ça un petit peu plus concret, j'aimerais illustrer comment, dans les secteurs éducation, formation, l'AFD tente d'intégrer ces enjeux de développement durable et de lutte contre le changement climatique, en particulier à travers cinq leviers. Le premier, c'est la promotion de l'équité dans l'accès à l'éducation et la prise en compte des enjeux de genre. Monsieur Léna soulignait ce matin ces effrayantes, scandaleuses inégalités, effectivement, qui accroissent la vulnérabilité de tous, des enfants, des jeunes en particulier, aux effets négatifs de la dégradation de l'environnement. Donc on s'attache effectivement à répondre aux besoins des populations les plus marginalisées, les plus menacées. Des mesures aussi spécifiques visent l'éducation, l'accès, le maintien des filles à l'école, parce qu'il est démontré que, et ça a été largement dit ce matin, l'éducation des filles et des femmes est une des mesures les plus efficaces pour accompagner l'atténuation et par les communautés. Le deuxième levier, et on en a aussi beaucoup parlé ce matin, ce sont des projets qui, toujours à la demande des pays, interviennent sur les curricula, les contenus de formation, et toujours sur plusieurs dimensions, en fonction de la demande aussi. Certains projets intègrent des évolutions pédagogiques pour améliorer la formation des enseignants et la qualité des apprentissages, des enseignements en mathématiques et sciences, et notamment avec l'association de la main à la pâte qu'on a citée ce matin, pour améliorer les contenus de formation, les pratiques enseignantes, la formation initiale et continue des enseignants. Des projets aussi concernent l'enseignement civique, l'éducation à la citoyenneté pour faire évoluer les comportements, le vivre ensemble, les gestes au quotidien du développement durable. Donc on voit là cette notion interdisciplinaire dont on parlait ce matin, la science, l'éthique, auquel on a fait référence. Le troisième levier sur lequel on essaie d'intervenir, ce sont des projets qui appuient la construction d'une gestion concertée, partagée de l'école entre les acteurs éducatifs et les communautés, les collectivités locales. Et ça se traduit par des projets d'établissement, on a eu des exemples en France ce matin, des projets d'établissement qui sont axés sur l'environnement, le changement climatique, la cohésion sociale Ça se traduit aussi par l'intervention massive des ONG, beaucoup, dans beaucoup de projets, qui interviennent aussi sur des enjeux de genre, de citoyenneté, de réussite à l'école, de conditions de travail scolaire, de maintenance des établissements. Et ça peut se traduire aussi par des liens avec l'éducation non formelle ou des activités extrascolaires pour permettre aux enfants d'interagir avec leur environnement. On a pas mal d'exemples de projets sur lesquels je pourrais revenir tout à l'heure, au Togo, au Bénin, au Sénégal, etc. Quatrième levier, nous intervenons, ça a été mentionné, sur le développement des compétences pour accompagner la transition énergétique, écologique, et ça se traduit par des projets pour améliorer l'offre de formation, adapter les profils et les compétences recherchées. Ce sont des projets de formation dans les secteurs des énergies renouvelables, de l'efficacité énergétique. On a cité le projet d'institut de formation métier de l'énergie renouvelable au Maroc tout à l'heure. Merci. Des projets aussi dans le secteur du bâtiment, l'efficacité énergétique dans le bâtiment, les transports, gestion des déchets, dans l'amélioration aussi de la formation agricole et rurale pour intégrer les pratiques agroécologiques, par exemple, et la préservation de la biodiversité. Et ces projets sont parfois, mais rarement, associés à des projets avec la recherche. Le cinquième levier, c'est... Et ce sera le dernier. Je garderai les autres points pour le débat. Le cinquième levier, c'est l'attention que l'on essaie de porter dans les normes, les bonnes pratiques écologiques, dans les normes de construction et les designs architecturaux pour la construction des écoles, des collèges, des centres de formation, des universités. en impliquant les communautés locales et les entreprises locales. Ça se traduit là par l'utilisation de matériaux locaux, le design architectural qui prenne en compte les environnements naturels environnements naturels et culturels locaux, des enjeux d'efficacité énergétique aussi, et la prise en compte aussi de la vulnérabilité climatique des bâtiments dont on a parlé ce matin, les risques d'inondation, etc. Et là aussi, nous avons un certain nombre de projets au Togo, par exemple, des constructions de collèges en matériaux locaux, donc avec une dimension écologique, une dimension aussi qui permet de préserver les techniques ancestrales, des projets pilotes aussi en Équateur sur des constructions d'établissements pilotes qui répondent aux besoins aussi des communautés amérindiennes, des projets de construction d'écoles en RDC en matériaux locaux, en briques compressées, sans recours à la chauffe du bois, etc. Alors, c'est l'ensemble, et je conclue là-dessus, on y reviendra pour la suite tout à l'heure sur les pistes d'amélioration. L'ensemble de ces activités, on le voit, ne sont pas en contradiction avec l'éducation et le développement durable ou le changement climatique, mais ont affaire à un certain nombre de limites et de barrières sur lesquelles j'espère pouvoir revenir tout à l'heure, qui sont autant de pistes d'amélioration pour nos actions collectivement au sein de l'équipe France. Merci.
Merci beaucoup. Cette synthèse de ce que vous avez fait ou ce que vous faites à l'AFD est tout à fait remarquable. J'ai lu dans un document que vous m'avez fait parvenir hier soir à minuit une petite réserve sur ce que vous venez de dire, votre cinquième point, c'est-à-dire de faire de l'adaptation des architectures locales en utilisant des matériaux locaux, où parfois c'est très mal interprété. C'est ce que vous dites, hein, c'est vos mots. Hein, et il faut faire attention, parce qu'effectivement, si on a l'impression qu'on va construire des écoles au rabais, parce que ce n'est pas des matériaux nobles comme du béton, du métal ou de l'aluminium, eh ben, on fait un peu l'inverse de ce qu'on voudrait. Hein. Donc ce que vous dites est intéressant, mais vous avez vous-même élevé la critique sur ce qui peut se passer. Oui.